Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous et bienvenue à bord. Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, nous vous le révélions dès hier, un mineur de 16 ans déjà fiché S qui projetait une action kamikaze pendant les Jeux Olympiques a été placé en garde à vue. Nous serons en direct de la commune de Marigné où il a été interpellé dans quelques instants. Emmanuel Macron à la rescousse. Le président vient de terminer son discours il y a quelques minutes à la Sorbonne. Alors pour présenter ses ambitions européennes et relancer la candidature de Valérie Ayé. L'actualité, c'est aussi le préfet de l'Hérault qui retire son agrément à un club de football amateur qui refuse d'intégrer une équipe féminine et qui affiche aussi sur son logo un croissant de lune étoilée, le symbole de l'islam. Et puis les ailes du célèbre cabaret Le Moulin Rouge à Pigalle se sont effondrées dans la nuit sans faire de blessés. Tous les détails à la fin de ce journal. 13h01, Géraldine Hamon, la tendance météo.
Le temps sera assez variable cet après-midi sur l'ensemble du pays avec des pluies fréquentes sur le quart sud-ouest. Les températures varient de 10 à 15 degrés en général et atteignent les 19 degrés sur le pourtour méditerranéen. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Et on ouvre cette Europe 1 13h avec cet adolescent de 16 ans placé en garde à vue. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Ce jeune homme déjà fiché S a reconnu qu'il projetait de commettre une action terroriste suicidaire pendant les Jeux Olympiques. Noémie Loisel, vous êtes en direct dans la commune de Marigné. C'est en Haute-Savoie où l'adolescent a été interpellé.
Oui, c'est plus exactement chez ses parents que cet adolescent de 16 ans de nationalité française a été interpellé. Suivi pour radicalisation islamiste, il projetait de commettre un attentat suicide pendant les Jeux Olympiques dans le quartier d'affaires de la Défense. Les enquêteurs ont repéré l'adolescent sur la messagerie sécurisée Telegram. Dans ses messages, le jeune homme cherchait à se procurer du matériel pour confectionner une ceinture explosive. Il écrit aussi vouloir mourir en martyr au nom de l'organisation État islamique. Un serment d'allégeance à Daesh a d'ailleurs été découvert par les enquêteurs lors de la perquisition à son domicile. Un téléphone a aussi été saisi et sera analysé. L'adolescent a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste pour association de malfaiteurs terroristes criminels.
Noémie Loisel en direct de Marigné en Haute-Savoie pour Europe 1. Et pendant ce temps-là, dans l'Hérault, le 7 Olympique Football Club vient d'être sanctionné par l'État pour pratique communautaire. D'après la préfecture, ce club amateur a délibérément fait le choix de ne pas ouvrir de section féminine et d'avoir, pendant plusieurs années, arboré un logo explicitement religieux. Dans la commune de 7, c'est le choc et l'incompréhension. Le reportage de Charles Lullier.
Ces footballeurs musulmans ont l'habitude de s'entraîner sur un terrain municipal qu'ils partagent avec d'autres clubs et donc d'autres joueurs abasourdis.
Mélanger la religion avec le sport, c'est pas bon. Et c'est ce qui se passe.
J'apprends des choses quand même qui me choquent un peu. Nous, on n'est pas du tout dans le communautarisme où on ne veut pas de femmes, pas du tout là-dedans.
Il y a eu en effet refus délibéré d'ouvrir une section féminine. Il y a aussi ce mystérieux logo remplacé Manu Militari en juin dernier suite à un contrôle. Et cela interroge Hervé Marquez, élu au sport à la ville de Sète.
C'est un croissant de lune, donc. Nous avons décidé de suivre les motivations du préfet à la lettre. Donc, défaut de neutralité, du fait d'un signe emblématique de la religion musulmane pour le logo du club. Je crois que ces choses sont claires.
La ville va donc priver le club de ses 8000 euros de subventions annuelles en plus de ses terrains municipaux.
Le contrat que nous avions pris avec eux, il y a le contrat d'engagement républicain et la charte de la laïcité. Et aujourd'hui, le contrat de confiance est rompu. La laïcité n'y est plus.
Le club a d'ores et déjà prévu de faire appel et refuse pour l'instant toute sollicitation médiatique. À 7, Charles Lullier, Europe.
13h04 sur Europe 1, alors que les opérations Place Net XXL se multiplient, le calvaire quotidien des agents municipaux de Rennes ne cesse pas. Des jardiniers, des responsables de la propreté des espaces publics, tous agressés à plusieurs reprises par des trafiquants de drogue dans les quartiers sud de la ville de Rennes. Des agents soutenus par leurs 7000 collègues de la métropole qui appellent à un débrayage la semaine prochaine. En attendant ce soir, ils vont être reçus par la direction pour tenter de trouver des solutions. Le reportage de Sandrine Prioul.
on est victime de cette dérive mafieuse.
Il y a peu, les agents de propreté, les jardiniers, cohabitaient encore avec les dealers locaux, explique Stéphane Morando pour Sud Solidaire. Mais aujourd'hui, ils ne sont même plus sûrs d'exercer leur mission de service public sans danger.
Les points de deal sont à la prise de Parisiens et de groupes marseillais, ce qui crée toute une tension aussi. Il suffit d'un coup de débroussailleuse près d'un arbuste ou autre où étaient cachés des stupéfiants. Si ceux-là ont été abîmés, ils vont venir filmer les agents et diffuser sur différents réseaux sociaux. Voilà, ça devient craignose, des munitions ont été retrouvées, des armes, etc.
Pour la CGT, Laurent Quéron demande donc à sa direction de prendre conscience de l'urgence.
Les agents sont là pour travailler au mieux. Ils ont été souvent considérés en première ligne lors de la pandémie, mais là, ils sont en première ligne aussi de cette fracture sociale, parce que bon, on n'en sort pas. Et de cette dérive de trafic, voilà, c'est un autre monde.
Une prime d'attractivité, mais surtout le moyen de travailler en binôme. Il en va là de la sécurité des agents, affirme ses délégués du personnel.
Sandrine Prioul, la correspondante Europe 1 dans le Grand Ouest. Il était de retour à la Sorbonne ce matin, 7 ans après son grand discours sur l'Europe. Emmanuel Macron a réédité l'exercice. Le chef de l'État a livré pendant près de 2 heures un bilan de ce qui a été fait depuis 2017, mais aussi et surtout dressé des perspectives pour les prochaines années. Alexandre Chauveau, vous êtes en direct de la Sorbonne, vous avez suivi ce discours, un discours qui intervient en pleine campagne européenne et qui a aussi vocation, on peut le dire, à dynamiser la campagne de Valérie Ayé.
Oui, alors sur le fond et la forme, pas de doute, c'était avant tout un discours de chef d'État sur l'un des invariables du macronisme, l'Europe. Beaucoup de sujets passés en revue et à chaque fois un maître mot, la souveraineté européenne, souveraineté en matière de défense, d'industrie, d'énergie ou d'alimentation. Les règles du jeu ont changé, affirme Emmanuel Macron, qui appelle l'Europe à sortir de sa naïveté face à l'agressivité militaire ou économique des puissances adverses.
L'attaque contre les démocraties libérales, contre nos valeurs, contre, je le dis dans ce lieu de savoir, ce qui est le substrat même de la civilisation européenne, une certaine relation avec la liberté, la justice, le savoir, se joue maintenant ou pas. Oui, nous sommes au moment de bascule et notre Europe est mortelle, simplement cela dépend de nous.
Un avertissement lancé à nos voisins européens, mais aussi aux Français, bien sûr, appelé à choisir le 9 juin prochain entre différents candidats, dont Valérie Ayé, la tête de liste de la majorité présidentielle, en difficulté dans les sondages. Emmanuel Macron a donc redit ce matin son attachement à l'unité européenne. Seul moyen, selon lui, de faire face aux défis du monde. Nous devons y répondre par la puissance, la prospérité et l'humanisme, dit le chef de l'État, qui vient tout juste d'achever ses près de 2 heures de discours.
Alexandre Chauveau, en direct de la Sorbonne pour Europe 1. Et vous, auditeur d'Europe 1, qu'avez-vous pensé de ce discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron? Eh bien, venez réagir dès 13h20 avec Jean-Claude Dacier et Olivier Dartigolle. On décryptera les messages du président et on prolongera le débat dès ce soir à 19h20. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, sera avec nous en direct dans le studio.
Et pour réagir, vous composez dès maintenant le 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. 13h08 sur Europe 1. La suite du journal avec vous, Céline Giraud.
Et nous en avions déjà parlé sur Europe 1. La Russie mène une guerre de l'information contre la France et ce sont les Jeux Olympiques qui sont dans le viseur de la propagande russe, avec des faux reportages en pagaille sur les réseaux sociaux, des manœuvres numériques d'influence qui inquiètent les renseignements. Jean-Baptiste Marty.
Une musique de fond anxiogène. Des identités visuelles de médias français imitées, comme sur un reportage de TF1 repris sans la voix du journaliste et cette fausse information en sous-titre. Les Parisiennes sont invitées à accoucher avant les Jeux Olympiques pour libérer les lits pendant l'événement. Ou cet autre reportage repris de France 24 avec son logo et expliquant que le site de location Airbnb ne remboursera aucune réservation pendant la compétition en cas d'annulation. Là encore un mensonge, une stratégie de désinformation selon David Colomb, avec un objectif final bien identifié.
De fragiliser l'image de notre pays et de ses dirigeants dans le monde. Et de ce point de vue-là, les Jeux Olympiques représentent une occasion unique en diffusant des narratifs remettant en cause la capacité de notre pays à mener à bien ce grand événement.
Des opérations sur les réseaux sociaux qui s'ajoutent à d'autres comme les Étoiles de David dans le 14e arrondissement de Paris en octobre dernier. Et cette crainte pour le renseignement que l'accumulation de ces fausses informations touche les anti-JO en France, des contestataires prêts à perturber le bon déroulé de l'événement.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1 est 13h09.
13h, 14h, Céline Géraud.
C'est un indicateur toujours très attendu. Il concerne l'évolution du chômage. Le ministère du Travail vient de dévoiler le nombre d'inscrits à France Travail, anciennement Pôle emploi, pour le premier trimestre 2024. Et Margot Faudéré, ça ne s'améliore pas.
Effectivement, sur les trois premiers mois de l'année, le nombre de demandeurs d'emploi est resté quasiment stable. Le nombre d'inscrits en catégorie A, c'est-à-dire ceux sans aucune activité, reste supérieur à 3 millions. Même si, il faut le reconnaître, c'est une petite surprise, car on pouvait s'attendre à une dégradation, rappelle Sylvain Bersinger, économiste au cabinet Asterès.
Dans le contexte économique assez poussif, avec une croissance qui patine, un secteur de l'immobilier qui souffre des taux élevés, on aurait pu craindre une hausse assez forte. On a grosso modo une stabilité. Et en ça, si on veut voir le verre à moitié plein, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Mais cela ne veut pas dire pour autant que le gouvernement a réussi son pari. L'objectif, c'est le plein emploi en 2027 et on en est encore loin. Surtout que certains facteurs pourraient continuer à peser sur le marché de l'emploi dans les prochains mois, comme le ralentissement de l'économie ou les carnets de commandes des entreprises qui peinent à se remplir. Sans oublier l'entrée en vigueur en janvier 2025 de la réforme de France Travail. Elle devrait faire basculer au moins 1 million de personnes bénéficiaires et demandeurs du RSA dans les statistiques de France Travail.
Les précisions de Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Dans cette Europe 1 Trésor, une autre étude très éclairante, celle de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Alors si vous voulez avoir le meilleur rendement, il ne faut pas miser sur l'immobilier ou sur le livret A, il faut miser sur les actions. Et Baptiste Morin, les chiffres montrent que les habitudes d'épargne des Français ne sont pas les plus rentables, loin de là, hein.
Oui, l'IEIF a compilé les données entre 1983 et 2023, donc sur 40 ans, et il en ressort que l'épargne placée sur les entreprises cotées en France, donc placée en actions françaises, a rapporté 12,4% par an. C'est tout simplement le meilleur investissement, comme l'explique Pierre Scheffler. Il est conseiller principal à l'IEIF.
Quand vous achetez des actions, vous achetez la croissance économique de votre pays. Et c'est le seul actif qui permet de le faire. Quand vous achetez des obligations, vous n'achetez pas la croissance économique. Vous achetez juste la capacité de l'État à vous rembourser. Et quand vous achetez de l'immobilier, vous achetez un produit qui est indexé sur l'inflation, certes, mais peu sur la productivité.
Sur ces 40 années, le placement en actions est plus rentable que l'immobilier. À Paris, il rapporte même quasiment deux fois plus que l'assurance vie et près de quatre fois plus que le livret A. Or, si 80% des Français possèdent un livret A et près de 50% ont une assurance vie, moins de 10% possèdent des actions.
Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Et sachez que 3 vols sur 4 sont annulés aujourd'hui à l'aéroport de Paris-Orly. 55% à Roissy, 65% à Marseille. Les contrôleurs aériens ont levé leur préavis de grève trop tard pour rétablir le trafic aérien. Les compagnies low cost qui multiplient les rotations dans l'espace européen sont les plus impactées. 13h12, la Croix-Rouge publie ce matin son report annuel sur la vulnérabilité de la population française face aux événements climatiques extrêmes. Incendies, sécheresses, canicules et inondations se multiplient, mais la gestion de crise pour la France est loin d'être optimale et nous n'avons pas forcément, on peut le dire, les bons réflexes. Louis Salé, notamment celui de prévoir un sac d'urgence en cas de grand danger.
Et oui, un incendie qui se déclare, sa maison qui prend l'eau, il faut pouvoir partir avec un sac tout prêt qui contient des vêtements, des vivres, des médicaments, de l'eau et une lampe torche. C'est l'une des préconisations de ce rapport. Philippe Dacosta, président de la Croix-Rouge.
Quand on incite tous les citoyens à adopter le réflexe du sac d'urgence qui répond aux 5 besoins vitaux en cas de crise, l'hydratation, l'alimentation, le soin, la protection, le signalement, c'est une manière de sensibiliser la population à des gestes vitaux, à des comportements qui peuvent sauver des vies.
Le rapport insiste aussi sur la formation des citoyens au premier secours. 40% seulement des Français connaissent les gestes qui sauvent, contre 80% des Allemands par exemple. Ça fait pourtant partie de cette culture du risque qu'il faut développer. Jean Jouzel est climatologue.
On a toujours ce sentiment que c'est le voisin qui sera touché et pas nous-mêmes, alors que chacun d'entre nous, nous sommes concernés. Il y a des plans de protection des risques, il faut qu'ils soient vraiment respectés. Par exemple, il reste toujours, semble-t-il, assez difficile d'imposer ces plans qui apportent des restrictions sur les permis de construire, par exemple.
Et oui, éviter de bâtir dans les zones inondables ou les zones côtières exposées aux submersions marines, par exemple, font partie de ces règles indispensables à respecter.
Merci Louis Salé, spécialiste environnement à Europe 1.
Et à 13h14 sur Europe 1, Céline, vous revenez sur cet effondrement spectaculaire. Et oui, l'année dernière, les ailes du Moulin Rouge se sont décrochées.
Oui, les ailes du célèbre cabaret parisien du quartier de Pigalle sont tombées. Il était un peu plus de 2h du matin, sans faire aucun blessé. Hein. C'est presque un miracle. Guillaume Dominguez, vous êtes devant le cabaret et dans le quartier, forcément, beaucoup d'agitation. Cet accident fait beaucoup réagir.
Et oui, ici, des dizaines de badauds s'arrêtent devant l'emblématique façade du cabaret, désormais défigurée. Un choc pour Jean-Marie et Brigitte. Ce couple d'Alsaciens en visite à Paris ont entendu les ailes du Moulin tomber cette nuit.
Cette nuit, je me suis réveillé, il y avait un bruit sourd, donc j'ai pensé à un échafaudage ou une grue qui s'est effondrée. Et finalement, c'était les ailes du Moulin. Ce matin, en regardant les infos, j'ai vu qu'il y avait les ailes qui sont tombées. On était stupéfaits, quoi.
Ah bon, les jeux, c'est triste. Bon, ils vont le réparer.
Alors ici, aucune trace des ailes, elles ont été évacuées par camion tôt ce matin. Dans un communiqué, la direction du Moulin Rouge explique que la chute n'est pas un acte malveillant et qu'elle est, selon eux, inexplicable. Le mécanisme est vérifié chaque semaine, précise la direction. Une version qui correspond au témoignage donné par les habitants du quartier. Rita est chef de rang au Rouge Bis, la brasserie qui fait face au Moulin Rouge.
J'ai un ami qui était là cette nuit et qui a vu l'aile tomber. Apparemment, elle serait tombée d'elle-même. Ce matin, ça m'a fait tout drôle. C'est assez touchant que le monument emblématique qu'on connaît depuis des années s'écroule du jour au lendemain. Nous, ça fait des années qu'on est devant. Donc voilà, c'est assez dur, mais il y a des bons côtés quand même, hein, parce que ça nous fait bosser.
Et oui, s'ils sont nombreux, les passants venus voir l'emblématique cabaret ce matin, comme quoi même sans ses ailes, le Moulin Rouge reste toujours aussi attirant.
Guillaume Dominguez en direct devant le Moulin Rouge à Pigalle pour Europe 1. Allez, 13h16, un point sur les marchés, comme chaque jour avec vous, Didier Hameau de boursier.com. La tendance ?
En baisse assez nette, hein, moins 0,9%, quand même 8020 points le CAC 40, alors que les résultats d'entreprise continuent d'animer le marché. Dans le palmarès du jour, on a Verallia, Fnac, Darty ou Sanofi qui s'en sortent bien, en hausse de 4 à 5%. En revanche, c'est plus délicat pour Atos, toujours en difficulté, mais aussi pour Dassault Systèmes et Pernod Ricard qui reculent de 3 à 6%. Ailleurs en Europe, ça baisse. Moins 0,6% à Francfort, moins 0,3% à Bruxelles. Le CAC 40 perd 0,9%, 8020 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de boursier.com et rendez-vous ce soir à 19h. Allez, 13h16, la météo avec vous maintenant. Géraldine Hamon, nuages et pluie sur une grande partie du pays cet après-midi.
Exactement Céline, avec en effet des précipitations qui se multiplient sur tout le quart sud-ouest qui se dirige vers la Bourgogne, la vallée du Rhône et les plaines du Languedoc-Roussillon. Des averses aussi sont à prévoir sur les Alpes du Sud et sur la Corse. Et malgré un ciel voilé, la Provence et la Côte d'Azur conservent, elles, un temps bien ensoleillé dans l'ensemble. Ailleurs, sur le nord et le nord-est, le ciel devient plus changeant cet après-midi, partagé entre éclaircies, passages nuageux et deux petites averses, notamment sur les côtes de Manche, près de la Belgique et sur le Grand Est. Pour les températures, elles restent un petit peu fraîches, 9 degrés à Charleville-Mézières, 10 degrés à Reims, 11 à Dijon, 12 seulement à Paris, 13 à Lyon, 14 à Saint-Brieuc, 15 degrés à Nice, 16 degrés à Brest, 17 à Marseille, jusqu'à 18 degrés à Bastia. Et demain, le programme, pluie, averse et quelques orages dans l'après-midi.
Merci Géraldine. On reste ensemble évidemment jusqu'à 14h avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Si vous souhaitez réagir sur les sujets qui font l'actualité, dans quelques instants avec Jean-Claude Dacier et Olivier Dartigol, on va décrypter justement le Parlement européen qui reconnaît la GPA forcée comme une traite, comme la traite des êtres humains. On en parlera, on écoutera Marion Maréchal qui a réagi sur cette polémique. Et puis une fratrie expulsée de son logement social à Taverny après avoir commis des actes graves de délinquance. On sera avec la maire de Taverny, Florence Portelli, qui s'en félicite. À tout de suite sur Europe 1.
Céline Giraud vous informe de 13h à 14h sur Europe 1. À tout de suite.